Priorité santé, avec l'assurance d'être en de bonnes mains. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Problèmes d'organisation, harcèlement, surcharge de travail, le personnel soignant est épuisé, l'hôpital public va mal en France. Cette dégradation des conditions de travail entraîne-t-elle d'ailleurs une dégradation des soins? Quelles sont les causes de cette souffrance au travail? Comment y remédier? Comment mieux organiser les hôpitaux? En France, une précision, les dépenses hospitalières représentent plus de 46% de la consommation globale des soins. Peut-on faire des économies sans toucher la qualité de ces soins? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont quatre, le professeur Michael Perromor, qui est chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, le professeur André Grimaldi, qui est diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Olivier Véran, qui est neurologue au CHU de Grenoble, chargé du comité de réforme sur le mode de financement des établissements français de santé, ancien député. Également avec nous, Elsa, qui est infirmière puéricultrice dans un service de néonatologie dans un CHU. Elle fait partie de l'Association nationale des puéricultrices, la NPDE, et devrait nous rejoindre Michel Rosenblatt, qui est directeur d'hôpital aux Hospices civils de Lyon. Je vous rappelle le téléphone si jamais vous voulez nous joindre et nous donner votre avis sur les hôpitaux publics en France, le 33 1 84 22 75 75. Professeur Michael Perromor, professeur André Grimaldi et Elsa, bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Docteur Olivier Véran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Grenoble, vous êtes dans les studios de France Bleu Isère. Si vous le voulez bien, Elsa, on va commencer avec vous. Vous êtes infirmière, vous êtes même puéricultrice dans un service de néonatologie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant qu'infirmière?
Alors, les difficultés qu'on rencontre au quotidien, et je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est le manque de personnel. Nous, sur les services de néonatologie, nous sommes censés être soumis au décret de périnatalité. Alors, ça sous-entend une infirmière pour deux enfants en service de réanimation néonatale ou une infirmière pour trois enfants sur des services de soins intensifs. Ces quotas sont régulièrement non respectés. Alors, ça nous amène quand même des risques, je trouve, moi, pour la sécurité des enfants qu'on prend en charge. Quand vous êtes censé avoir deux enfants en réanimation et que vous en avez trois ou quatre, le temps est difficile à prendre. On n'a pas toujours non plus la possibilité d'accompagner les parents autant qu'on aimerait. Voilà, après, ça va être...
Ça vous fait peur dans les gestes que vous faites?
Moi, oui, ça me fait peur. Alors, une autre difficulté qu'on rencontre sur les services de pédiatrie, c'est le fait que les infirmières puéricultrices sont remplacées par des infirmières en soins généraux, sachant que depuis le nouveau décret des nouveaux infirmiers, celles qui sortent depuis juin 2012 n'ont plus aucun apport de pédiatrie dans leur programme et n'ont pas de stage en pédiatrie. Donc, arriver dans un service très technique avec une prise en charge très particulière, parce que l'enfant prématuré et sa famille, c'est quand même un secteur un petit peu à part.
Donc,
c'est une difficulté.
Premier point, manque de personnel, remplacé par des personnes pas forcément suffisamment formées.
Voilà, exactement.
Voilà, quelles sont les autres difficultés?
Le fait de ne pas avoir assez de jours de repos, le fait, du coup, on nous oblige, entre guillemets, à ouvrir des comptes épargne temps, donc on est plusieurs à refuser cette option-là. On nous fait quand même comprendre que le service est prioritaire par rapport à nos priorités personnelles. Alors, je pense qu'on est toutes amoureuses de notre métier. On fait ça par passion. On fait ça pour aussi aider des familles en difficulté. Sauf qu'il y a un moment ou un autre où, à force de tirer sur la corde, eh ben, je pense qu'on n'est pas forcément assez efficient.
Vous vous sentez épuisée?
Oui. Après, je pense qu'on est toutes un petit peu dans le même bateau. On revient parce que justement, on a une cohésion d'équipe qui fait que on sait que le risque de ne pas revenir, c'est de mettre les collègues en difficulté, c'est de pas assurer les soins de manière correcte auprès des enfants. Donc voilà, en fait, c'est
vous
ça
aimez
qui
votre
nous
métier,
fait...
mais ça devient de plus en plus difficile.
Exactement.
Professeur Michael Perromor, vous réagissez comment à ce que vient de dire Elsa? Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez dans votre service?
Bien sûr, pas seulement dans le mien, mais dans tous les services que je côtoie, d'une manière ou d'une autre. Et ça vient d'être dit, il y a non seulement un problème quantitatif de manque de personnel et de moyens en général, mais aussi, un problème qualitatif, puisque ces dernières années, on assiste à une mutualisation à tout va du personnel.
Entre autres, des infirmières ?
Oui, entre autres, surtout des infirmières. Et donc, ça vient d'être dit très bien, des gens qui viennent d'un autre service sont propulsés du jour au lendemain dans le nôtre et vice-versa. Et on ne peut pas demander à tout le monde de savoir tout. Et il y a d'une certaine manière une forme de médecine low cost qui s'est installée, puisqu'on prend des gens interchangeables qu'on met à des postes différents.
Qu'on ne fait quand même pas pour les médecins, d'ailleurs.
Ce qu'on ne fait pas pour les médecins, pas encore. Encore que ça a commencé pour les anesthésistes.
On n'a quand même pas mis André Grimaldi dans votre service d'urologie.
Non, mais pour les anesthésistes, par exemple, depuis quelques années, c'est le cas. Et vous avez des anesthésistes de chirurgie orthopédique qui viennent en urologie ou en orthopédie sans connaître du tout ni les patients ni les protocoles. Donc, moi, je suis à la fois inquiet du manque quantitatif de personnel, mais aussi, et je dirais presque surtout, de ce problème qualitatif de la mutualisation.
Quelles sont les autres difficultés que vous voyez, en dehors de ce que vient d'évoquer Elsa, sur lesquelles vous êtes d'accord, hein ?
Alors, en dehors du problème du personnel à proprement parler, je pense qu'il y a un problème d'organisation, de gouvernance à l'hôpital, avec la création des pôles en 2005, et avec surtout...
Regroupant plusieurs services.
Voilà. Et avec la bureaucratisation, d'une manière générale, de tout le système, qui fait qu'aujourd'hui, pour faire aboutir à un projet de soins, qui, il y a encore 10 ans, aurait pu prendre quelques mois, eh bien, il va falloir passer par un certain nombre de commissions et d'échelons hospitaliers. Et le projet verra le jour, s'il le voit, au bout de quelques années. Et ça, c'est très, très démotivant pour les équipes.
Professeur, plutôt docteur Olivier Véran, comment vous réagissez ? Vous êtes d'abord d'accord avec ce que vient de dire Elsa, puis d'accord avec ce que vient de dire aussi le professeur Perromort ?
De toute façon, ce sont des bons professionnels de santé qui font un constat à l'hôpital. Il ne me revient pas de dire si je suis d'accord ou non, mais ça correspond effectivement à plusieurs témoignages que j'ai pu entendre. Vous savez, en 2012, quand je suis arrivé au Parlement, j'ai dénoncé le recours excessif et un peu sauvage à l'intérim médical dans les hôpitaux publics, considérant qu'on manquait d'un certain nombre de professions à l'hôpital et que du coup, alors là, c'est pas des médecins qui sont interchangeables, mais enfin, ce sont des médecins qui viennent sur des contrats de courte durée, qui, comme cela a été dit tout à l'heure, ne connaissent pas les protocoles en cours dans le service, qui viennent pour un jour ou deux jours, qui coûtent très cher à l'hôpital, qui mettent en péril la continuité, la qualité et voire la sécurité des soins dans certains cas. Je l'ai dénoncé en 2012, je n'en enlèverai pas évidemment une ligne aujourd'hui de ce qui a été dit. Ensuite, je fais le constat que le médical a perdu d'une certaine manière la main sur l'hôpital. Quand on parle de regroupement en pôle, quand on parle de gouvernance hospitalière, quand on parle du rôle du directeur et du médecin, effectivement, il y a une forme de technocratisation, de bureaucratisation de l'hôpital qui a fait reculer progressivement le poids et l'impact du projet de soins, du projet médical à l'hôpital au profit de projets managériaux et administratifs liés à des sujets comptables. Et du coup, vous commencez à voir arriver un certain nombre de conditions de travail qui peuvent être dégradées pour des soignants, notamment des infirmières, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc je suis pas étonné du constat, c'est un constat qu'on fait depuis un certain nombre d'années.
Si je résume, que vous dites, vous dites que c'est l'administration du coup qui dirige l'hôpital et plus les médecins, mais est-ce que d'ailleurs un médecin un bon directeur d'hôpital ou pas du tout ?
C'est pas le même métier. Moi, je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Il faut qu'il y ait des directeurs d'hôpitaux qui sont parfaitement formés pour diriger un hôpital et qu'il y ait des médecins qui soient, pour un certain nombre d'entre eux, intéressés par les questions managériales. Si vous voulez, c'est pas un pouvoir et un contre-pouvoir, mais c'est plutôt un binôme, avec un médecin qui, de son côté, s'intéresse à la gestion d'un hôpital public et un directeur qui soit très à l'écoute du projet médical et qui garde en tête que le job du directeur d'hôpital, c'est de faire en sorte que les gens soient bien soignés et que les professionnels de santé soient heureux de travailler à l'hôpital. Or, peut-être qu'on a eu un glissement vers un métier de médecin-manager qui a intégré parfaitement tous les codes du pilotage médico-économique à l'hôpital et qui n'est peut-être plus, qui n'a peut-être plus la possibilité de jouer le rôle qui devrait être le sien en théorie, c'est-à-dire de mettre toujours l'accent sur le soin avant de s'intéresser ou avant de
On a justement au téléphone un directeur d'hôpital qui est Michel Rosenblatt, qui est directeur d'hôpitaux aux hôpitaux civils de Lyon. Bonjour Michel Rosenblatt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone. Vous avez eu quelques problèmes de transport en commun, donc on vous prend au téléphone. Oui. Voilà, vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de direction médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés, hein, le SYNCAS CFDT. Je l'ai dit, vous êtes directeur d'hôpital. Depuis le début, il y a deux choses, je dirais trois ou quatre choses qui sont ressorties sur les problèmes de l'hôpital public. Un problème de sous-effectif dans ce qui est du personnel soignant, entre autres des infirmières. Un problème de remplacement de personnel pas toujours qualifié. Et puisque dénoncé aussi le professeur Perromor, un problème de gouvernance et de bureaucratisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça?
Eh bien, excusez-moi, je suis un peu dans la cohue. Tout ne va pas mal. Et tout ne va pas bien. Et je crois qu'il faut effectivement dresser un portrait nuancé de la situation actuelle des hôpitaux. Bon, j'écoutais l'intervenant précédent et effectivement...
Qui est Olivier Véran à Grenoble.
Il faut un pilotage, il faut un binôme à la tête de l'hôpital parce qu'il faut assurer à la fois le management et l'application d'un projet médical et des prises en charge. La question n'est pas une question de pouvoir ou de suprématie ou de prérogative des uns par rapport aux autres. Nous sommes dans une logique de responsabilité. Et cette responsabilité nous est commune. Je pense que les directeurs sont des acteurs de santé publique dans leur cadre et dans leur périmètre de compétences. Et les médecins également, dans le leur, qui est considérable. Il faut arriver à assurer un équilibre des responsabilités et effectivement ne pas sacrifier le fonctionnement de l'établissement sur des critères comme le taux de marge brute ou des indicateurs de reporting et de management qui ne suffisent pas. Ça, c'est tout à fait certain et je pense que ce point-là fait consensus. Ensuite, le malaise à l'hôpital nécessite un diagnostic et un diagnostic fin. La ministre devrait annoncer dans les prochains jours une stratégie sur la qualité de vie au travail. Ce que nous avons dit lors d'une réunion préparatoire, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'un diagnostic fin. Toutes les situations ne se valent pas. Tous les types d'établissements ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés, selon leur taille, leur spécialité, leur bassin de population, leur capacité de recrutement de médecins ou non, etc. Ça nécessite une mise à plat. Ce qui est certain pour nous, c'est qu'une réponse de type bureaucratique consistant à juxtaposer des établissements dans des groupements hospitaliers de territoire ne suffit pas. Ça peut être quelquefois un outil. Le systématiser et décider que par type, plus on regroupe les structures et plus on sera performant, c'est une grande illusion.
Je voudrais faire réagir le professeur. Professeur André Grimaldi, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors le constat est partagé, hein, cette mutualisation, mais cette mobilité permanente des personnels. Les infirmières, c'est moi qui travaille tantôt le matin, 7h15 à 14h, puis le reste de la semaine, ça va être 13h55 à 21h30, donc leur vie de famille est quand même disloquée. Elles passent du 5e au 3e, qui n'est pas le même service. Bon, on a abîmé les équipes. Or, c'est ça la richesse d'un hôpital.
Et pourquoi ?
C'est les équipes. Parce qu'on a eu une vision que l'hôpital est une entreprise, la médecine devient industrielle. Voilà ce qu'on a dit à la fin du siècle dernier. La médecine, c'est l'application de procédures, notamment pour les chirurgiens, les anesthésistes. C'est l'application de recommandations pour les médecins. Donc, finalement, le médecin devient un ingénieur. Hein, donc, la médecine devient industrielle. Donc, ce qui est bon dans une entreprise commerciale est bon pour l'hôpital. Et on a mis en sorte de faire une tarification de l'activité. Et là, on a mis une contradiction fantastique qui peut pas durer. C'est-à-dire, on nous a dit, faites-en toujours plus.
Pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'hôpital.
Il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses. Mais l'enveloppe est fermée. Comme l'enveloppe est fermée, vous en faites toujours plus, on vous baisse les tarifs. Donc les tarifs sont devenus fluctuants. Donc, si vous voulez, bon, pas mais des chiffres, mais vous avez une augmentation de l'activité en 2015 de 2,3%, donc plus d'activité. Alors les gens qui hurlent aujourd'hui sur l'hospitalocentrisme, mais la tarification d'activité faisait l'hospitalocentrisme. Mais par contre, la masse salariale, elle a augmenté de 1,75%, parce que comme l'enveloppe générale n'a augmenté que 1,75%, donc... Eh ben, il faut faire plus avec moins de moyens, moins notamment d'infirmières, parce qu'on a embauché des médecins. On n'a pas embauché en parallèle des infirmières. Donc celles dont les conditions de travail
se sont dégradées,
ces infirmières. Alors ça va jusqu'à un point. On a supprimé dans notre bâtiment, hein, qui regroupe 5 services, on a supprimé la formation. Parce qu'on ne peut plus envoyer des gens en formation. Et une cadre infirmier, c'est-à-dire quelqu'un qui gère le personnel infirmier, a cette phrase aux infirmières de non-service à la Pitié-Salpêtrière. Il faut que vous fassiez le deuil de la qualité. Les malades sortent, diabétiques, au bout de 3 jours, non éduqués, ils reviendront. C'est pas grave, ils reviendront. Ça fera de l'activité. Donc quand on en est là, c'est une perte de sens, une perte de motivation. Donc absentéisme qui augmente, d'où difficulté. Nous voilà dans un cercle vicieux. Vous appartenez plus à une équipe. Quand vous êtes dans une équipe, quand vous êtes dans un bateau où tout le monde rame, vous devez ramer comme tout le monde. Et s'il y a un problème, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vas pas bien? Qu'est-ce qui arrive? On peut en prendre compte, enfin, etc. Là, si on vous envoie un jour au troisième, quatrième, j'en ai marre, je pose un arrêt. Et je me suis dit, bah, moi, j'en ai assez aussi, bah, je pose aussi un arrêt.
Il n'y a plus de travail d'équipe, c'est ça que vous voulez dire.
Et on dit aux médecins, vous occupez pas du personnel.
Professeur,
vous occupez pas de vos équipes, occupez-vous des médecins.
Si je comprends quand même ce que vous dites, une partie des maux de l'hôpital public aujourd'hui, c'est cette T2A, cette tarification à l'activité. Je voudrais,
c'est T2A et ONDAM. C'est-à-dire, on a une enveloppe fermée.
Ouais.
Et on nous dit, allez-y à l'activité. Et puis tout d'un coup, on vous dit, ben, vos tarifs, par exemple, cette année, les tarifs ont baissé de 0,8%. Bon, alors, l'année avant, ils avaient aussi baissé. Alors, donc, comment vous voulez faire? C'est la logique de l'écureuil dans sa cage.
Donc, la logique.
Toujours plus vite.
Hôpital entreprise et T2A. Professeur Perrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le professeur André Guémaldi?
Je suis 100% d'accord avec ça. Et je dirais que la T2A est une triple arnaque. La première arnaque, c'est plus vous faites d'activité. En fait, vous pensez que vous allez être récompensé, mais vous ne l'êtes pas. De toute façon, la direction trouvera toujours ce qui cloche. Parce que les durées de séjour sont encore trop longues, parce que les lits sont pas encore assez occupés, etc. Donc l'expérience montre que la T2A ne vous procure pas de moyens supplémentaires. Deuxièmement, ça induit un effet d'aubaine qui fait que les praticiens maintenant ont calqué leur pratique sur l'obéissance à la T2A. C'est-à-dire qu'on va hospitaliser deux fois le même malade, par exemple, plutôt que de l'hospitaliser une fois. C'est une aberration et je me demande même finalement si ça n'est pas plus coûteux à la sortie. Et troisièmement...
En tout cas, c'est plus coûteux pour la Sécu.
Ce que je veux dire, et c'est le plus important, c'est que ce que va gagner un hôpital grâce à son activité... Il le gagne d'une main, mais la collectivité publique le perd de l'autre parce que c'est aux frais de la sécurité sociale, donc du contribuable. La T2A, il faut absolument revenir là-dessus. Sans doute qu'il faut intéresser les équipes et les services, les hôpitaux à l'activité pour éviter d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Je peux le comprendre, mais il faut la moduler et y introduire un aspect qualitatif.
Et Elsa, cette T2A, elle a en fait aussi augmenté votre travail administratif.
Exactement. Alors en fait, je vous rejoins un petit peu par rapport à la qualité des soins apportés aux patients. Nous, la partie la plus importante de notre métier, c'est l'éducation et l'autonomisation du patient. Si cette partie de notre travail était reconnue à sa juste valeur et qu'on nous donnait les moyens de le faire correctement, je pense que les durées d'hospitalisation seraient diminuées et donc ça réduirait aussi les coûts au vu de l'hôpital. Ce qu'on apprend quand même, c'est que accompagner et apprendre à faire prend plus de temps que faire à la place de... Dans certains hôpitaux, il y a un peu moins de soucis de personnel, donc où, du coup, le personnel a plus le temps de faire cette éducation aux patients. Les sorties sont plus précoces, de 15 jours, voire 3 semaines, sur les services de néonatologie que des services
donc, ça vaudrait le coup,
où
ça
les effectifs sont réduits. Voilà,
Olivier Véran, vous en pensez quoi, vous, de cette T2A et de cet hôpital entreprise?
Vous savez, c'est une question sur laquelle je travaille beaucoup avec le comité de réforme des modes de financement de l'hôpital. Il faut, si on revient un petit peu en arrière...
Vous avez été chargé de ce comité de réforme, justement, du mode de financement des établissements français de santé.
Lorsque la T2A a été amenée en France il y a une dizaine d'années, il y avait à l'époque une inéquité très importante entre les établissements de santé qui étaient financés par une enveloppe budgétaire annuelle indépendante de l'activité qui était réalisée dans les hôpitaux et qui pouvait conduire à arrêter un certain type d'activité parce qu'il n'y avait plus d'argent à la caisse vers la fin de l'année. Lorsque la T2A
Interromps juste deux secondes. La T2A, si je ne me trompe, elle a été introduite par la droite. Vous avez été député socialiste. La gauche est au pouvoir depuis 5 ans. Elle n'est pas du tout revenue sur cette T2A.
C'est pas tout à fait vrai. Je vais y venir rapidement.
Vous avez 30 secondes parce qu'après on a une coupure d'infos. Mais
d'accord.
On pourrait
lorsque la T2A est arrivée, elle a permis de créer du dynamisme dans les hôpitaux publics puisque plus vous réalisiez d'activités, plus vous aviez de budget à la fin de l'année. Là où André Grimaldi a tout à fait raison, c'est que comme l'enveloppe pour le budget hospitalier est une enveloppe fermée et que cette enveloppe n'augmente plus suffisamment pour suivre l'augmentation d'activité, vous faites plus de 4% d'activité et vous n'avez pas une valorisation qui augmente de 4%. Ça veut dire que vous êtes obligé de demander plus de boulot au personnel. Donc aujourd'hui, le modèle de T2A est un modèle qui est dépassé pour la plupart des activités hospitalières et qu'il nous faut revoir. Et nous avons commencé à le revoir depuis un certain nombre d'années. J'ai émis déjà des propositions pour aller de l'avant dans un rapport d'étape et on va aller encore plus loin dans le rapport définitif de la mission.
Et je vous coupe la parole. Donc, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler des hôpitaux publics.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés de l'hôpital public en France avec le professeur Michael Perromort, qui est chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, le professeur André Grimaldi, qui est diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Olivier Véran, qui est neurologue au CHU de Grenoble et qui est chargé du comité de réforme sur le financement des établissements français de santé et ancien député, et au téléphone Michel Rosenblatt, qui est directeur d'hôpital aux Hospices Civils de Lyon, et Elsa, qui est infirmière puéricultrice dans un service de néonatologie dans un CHU et qui fait partie de l'Association nationale des puéricultrices. J'aurais une question à vous poser, docteur Olivier Véran. On était en train de parler de la question de la T2A, cette tarification à l'activité qui finalement entraîne une augmentation d'activité et coûte de plus en plus cher à la sécurité sociale. Est-ce que l'hôpital public français coûte trop cher ?
Ah, ça c'est, je ne sais pas. On n'a pas de réponse à cette question. Vous savez, on dépense, le budget de l'assurance maladie, c'est 190 milliards chaque année. C'est un pôle de dépenses qui est extrêmement important. La question, c'est est-ce que...
46% part à l'hôpital. Non, voilà, c'est pas 46% vrai. Le professeur Grimaldi me fait nom de la tête.
46%, 35% pour l'hôpital public. Oui. Et les privés non lucratifs, et 11% pour les cliniques on dira commerciales. Donc, faut dire les choses.
Le budget d'établissement de santé, public, c'est 90 milliards au total.
Donc, 46%, c'est le total.
C'est le total des hospitalisations.
Total. C'est 90 milliards au total.
Ouais. Mais alors, est-ce que c'est trop? Enfin, on a, par exemple, trop de lits sous-occupés. Il y a 6 lits en France pour 100 000 habitants. La Suède, c'est 2,1. Enfin, est-ce qu'on n'a pas trop de lits?
Alors, c'est pas la même question que celle que vous posez.
Bah, elle est un peu liée quand même.
La question de savoir est-ce qu'on met trop d'argent dans le budget de l'hôpital, et ensuite est-ce que l'hôpital est suffisamment bien organisé. Moi, je crois que nous avons un système dont nous pouvons être fiers, et notamment un système d'hôpital public qui fonctionne très bien, qui est un creuset de formation, qui est un des premiers employeurs des territoires dans lesquels il est implanté. On parle toujours de l'hôpital comme une dépense et comme un offreur de soins, mais c'est aussi un très grand formateur et un très grand pourvoyeur d'emplois. Donc ça fait partie pleinement de l'activité économique de notre pays. Donc ce ne sont pas 90 milliards qu'on dépense, c'est 90 milliards qu'on investit dans la santé des Français, dans l'emploi et dans la formation. Ça, c'est un premier point. Ensuite, est-ce que si on augmentait de 10 ou 20 milliards d'euros le budget de l'hôpital, l'état de santé des Français s'en trouverait amélioré? Nous n'avons pas d'indicateurs qui permettent de le dire ou de dire le contraire. Est-ce que c'est dans la mesure où est-ce que c'est 10 milliards ou c'est 20 milliards de plus? Est-ce qu'en les mettant dans l'environnement, dans la santé au travail ou dans les transports...
Donc, c'est pas forcément plus d'argent pour l'hôpital, c'est ce que vous êtes en train de dire?
Je pense que le budget de l'hôpital, il faut certainement pas le diminuer et qu'on a aujourd'hui un hôpital qui est extrêmement dynamique, qui est capable de se réformer en continu. Vous savez, on a cette image un peu rappelée chaque année par la Cour des comptes d'un hôpital qui serait une espèce de gros paquebot qui coûterait cher avec des fonctionnaires. Si on écoute Fillon, des fonctionnaires qui coûteraient trop cher et qui foutraient pas grand-chose. C'est très éloigné de la réalité.
Il y a quand même un problème d'organisation dans l'hôpital public. Il y a une vraie souffrance au travail. Elsa nous l'a raconté pour les infirmières. Tout le monde est d'accord pour le dire. Il faut quand même réorganiser cet hôpital public.
Il y a les règles de financement qu'il faut pouvoir revoir de façon à ce que, à l'augmentation d'activité, puisse suivre de façon satisfaisante une augmentation des équipes et une amélioration des conditions de vie au travail.
Vous êtes en train de devenir hyper politique dans ce que vous dites.
Non.
Si je puis me permettre, vous oubliez votre côté médecin, mais c'est très...
Non, au contraire, moi je défends l'hôpital public. Ce que je vous dis, c'est que l'hôpital public, c'est certainement pas la structure manquante de dynamisme. Au contraire, l'hôpital public, déjà, il subit des réformes tous les 5 ans. Faut arrêter avec les grandes réformes de gouvernance de l'hôpital. Ensuite, l'hôpital public, il développe de l'ambulatoire. Il réduit le nombre de lits. Il est capable de changer totalement sa façon de soigner les gens pour faire de la chirurgie ambulatoire, de la médecine ambulatoire. L'hôpital public, il est en permanence obligé de s'excuser parce qu'il en ferait trop. On parle tout le temps d'hospitalocentrisme. Alors que bien souvent, dans les territoires dans lesquels il est implanté, il est le seul à disposer du plateau technique et des compétences soignantes pour soigner les gens.
C'est ça, vous voulez nous dire que l'hôpital public reste un hôpital d'excellence, ne soyons pas trop négatifs, il y a quand même des choses
bien
positives.
Sûr.
J'entends ce que vous dites, j'ai quand même l'impression que le professeur André Grimaldi n'est pas tout à fait d'accord, je le vois faire nom de la tête.
Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. C'est pas est-ce que l'hôpital public coûte trop, c'est quel est le rapport entre l'activité faite en ville et l'activité à l'hôpital. Le grand problème du système de santé depuis 1945. C'est que nous n'avons pas construit de services de médecine de proximité en ville. Nous avons gardé les vieux principes de la médecine libérale. Nous n'avons pas adapté. Ce qui fait qu'il y a 18 millions de passages aux urgences hospitalières. Si vous n'avez pas de permanence des soins en ville, si vous n'avez pas les maisons de santé, alors on s'y met. Enfin, les maisons de santé. Tout le monde est d'accord sur le plan politique pour dire oui, c'est sûrement
l'avenir. Et particulièrement les jeunes médecins, d'ailleurs,
qui ont envie de s'installer. Effectivement, les maladies chroniques poussent à ça. Est-ce que en ville, on travaille en équipe? en équipe de médecins généralistes, avec des infirmières, avec des paramédicaux, des kinés, qui créent des maisons de santé et qui peuvent répondre, y compris, par exemple, ouvrir des consultations sans
rendez-vous. Donc, on ne peut pas parler de la réorganisation de l'hôpital public si on ne parle pas
si on
de
parle
ce qui est
pas de ce qu'est le problème. Par exemple, s'il y a une série d'activités de diabétologie ou d'éducation qu'on peut faire en ville, mais qui va les faire?
Donc, vous n'êtes pas content de ma question de savoir si l'hôpital... Donc, ma question de savoir si l'hôpital français public coûte trop cher, c'est... vous me dites que ce n'est pas la bonne question.
C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'il faut se donner les moyens d'aider à la construction d'une médecine de proximité moderne, c'est-à-dire de travail en équipe. Ce qu'on a dit, la qualité de l'hôpital historique, c'est les équipes. Et les équipes, c'est pas juxtaposer des gens qui font leur petit business tout seuls. C'est qu'ils partagent des dossiers, ils ont des réunions communes sur des cas complexes, ils se joignent les uns les autres. L'infirmière, elle a le portable de son médecin, elle est chez le malade qui est en insuffisance cardiaque, et elle l'appelle, et le malade, il n'est pas hospitalisé. De même pour les maisons. Qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD, dans les maisons de retraite? Il y a un problème, hop, hôpital. Bon, toute la table brûlante. Vous êtes seul médecin, si vous êtes seul dans votre cabinet, vous avez un gros problème, qu'est-ce que vous faites? Hôpital. Bon, donc c'est ça notre problème. Alors la proportion de l'hôpital, c'est vrai qu'en France, en proportion, on dépense plus pour l'hôpital, mais parce qu'on n'a pas une médecine de ville. Alors sur les lits, attention, on est dans les caricatures, comme dirait un candidat. L'Allemagne a plus de lits que nous. Le Japon, qui est des résultats de santé les meilleurs, a plus de lits que nous. Alors la Suède en a moins. Nous sommes dans la moyenne. C'est comme dans les dépenses de santé.
Mais les Suédois sont pas plus malades.
Ils vont pas plus mal. Non, mais ils ont un système très organisé. Pour le coup. Avec une médecine de ville très organisée. Les Anglais ont une médecine de ville super organisée. Ils ont plein d'autres problèmes parce que eux, ils sont contraints budgétairement avec une étatisation qui fait qu'ils dépensent 9% de leur produit intérieur brut quand nous dépensons près de 12%.
Professeur Perromore.
Je suis effectivement certain que c'est trop facile d'accuser l'hôpital d'être un mastodonte et d'une certaine manière...
Vous avez ras-le-bol d'entendre que vous coûtez trop cher.
Oui, parce qu'en effet, s'il y avait un meilleur maillage de la médecine avec des structures intermédiaires, des plateaux médico-techniques intermédiaires qui feraient le lien entre le domicile du patient et l'hôpital, eh bien effectivement, sans doute qu'on coûterait moins cher. Moi, je suis stupéfait de voir depuis quelques années qu'au CHU, des gens viennent voir un professeur d'urologie pour une cystite qui aurait pu être traitée à partir d'une consultation de 10 minutes chez le médecin généraliste. Donc la réalité, elle est là. C'est qu'on critique facilement l'hôpital public, mais qu'en dehors de l'hôpital public, il n'y a pas grand monde. Donc nous, on fait face à tout ça. On fait face à tout ça et on est obligé de le faire, c'est notre mission.
Et sur la partie réorganisation que vous nous avez évoquée au début, problème de gouvernance, bureaucratie, sur cette partie-là, on fait quoi?
Je crois, ça peut se discuter, mais je pense qu'il faut redonner de l'autonomie aux équipes, aux services. Si j'en avais la possibilité, j'effacerais volontiers la réorganisation en pôle, la restructuration en pôle, et je vous prie de me croire que je serais très heureux de redonner de l'autonomie, y compris, pourquoi pas, en partie budgétaire même, aux équipes, que les chefs d'équipe retrouvent la confiance de leurs équipes, de leurs adjoints, de leur personnel, qu'on puisse avoir des projets d'équipe, que les gens soient à nouveau motivés dans les projets de soins, qu'on puisse recruter des personnes s'il le faut, qu'on puisse acheter nous-mêmes le matériel dont on a besoin, qu'on puisse mener nos études cliniques. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas parce que le pouvoir a été totalement dilué et attiré vers la gestion administrative.
Alors, André Grimaldi, puis après, il y a Michel Rosenblatt, directeur de l'hôpital.
Déséquilibre du pouvoir, c'est-à-dire qu'on est passé, historiquement, à un pouvoir mandarinal qui est devenu un pouvoir abusif des médecins. Bon, qui est chez moi,
donc
chez
il fallait
mon service. Je suis le roi.
Donc bon. Ça, il fallait rééquilibrer.
Ça n'allait pas du tout. Non, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est avec la T2A. On a mis, qui dirige l'hôpital? Mais la finance, l'argent. Et donc les gestionnaires ont pris le pouvoir parce qu'ils ont pris le pouvoir avec la T2A. Donc désormais, on vous dit pas ce que vous faites c'est de la qualité. Combien ça rapporte? Ah ben ça va pas du tout. Vous faites de l'éducation thérapeutique, vous perdez votre temps. Vous dites, mais oui, mais les malades reviennent plus.
Vous dites toujours
mais
que
c'est des bons clients, il faut qu'ils viennent.
Ça rapporte beaucoup plus à l'hôpital de faire une amputation que de faire l'éducation thérapeutique en diabète pour éviter qu'ils soient amputés.
La dialyse, c'est une rente. C'est sauf que c'est bien payé. Donc les gens recherchent les créneaux qui sont rentables. La dialyse, ce sont 5 000 euros par an. Donc le privé lucratif se jette sur les dialyses. Si par contre vous greffez les rangs ou vous faites de la prévention de la dialyse, vous rapportez pas grand chose. Donc le côté rentabilité est devenu le maître mot.
Michel Rosenblatt.
Alors ce qui nous manque toujours, parce que l'autonomie des équipes, oui, parce qu'il faut les services puis les équipes, mais elles peuvent pas revenir à un passé, ça c'est pas possible. Il y a un problème de communauté médicale. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté médicale? Quelles sont ses règles de fonctionnement? Et ça, on l'a pas connu réellement. On était au début et on a abîmé ça, parce que maintenant la communauté médicale, c'est l'épaule, comme il s'est dit, qu'on pourrait supprimer. C'est-à-dire, on a dit à la communauté médicale, ben, ça sera des gestionnaires.
Michel Rosenblatt, vous qui êtes directeur d'hôpital, vous réagissez comment à ce qui vient d'être dit ?
Eh bien, je suis globalement plutôt d'accord avec ce qui a été dit, avec évidemment quelques nuances. Quand je dis évidemment, ce qui a été dit sur la T2A est tout à fait vrai. À partir du moment où on raisonne à périmètre constant, l'idée d'augmenter les activités, d'augmenter le nombre de séjours pour augmenter les ressources, a comme effet mécanique une baisse des tarifs dans l'enveloppe fermée. Lorsqu'on est à périmètre constant, parce que l'idée implicite, mais non dite clairement, c'est de diminuer le nombre de services, voire de diminuer le nombre d'établissements. Ce qui n'est ni facile, ni forcément pertinent, parce qu'il faut un maillage et une réponse territoriale, et non pas la concentration dans des usines à sous. Alors, est-ce que l'hôpital a trop de ressources ? Lorsqu'on regarde tendanciellement sur les 25 ou 30 dernières années, la part de l'hôpital dans le total des dépenses a baissé. Et c'est les soins de ville qui ont vu leur part augmenter assez fortement. Ce qui n'est pas un problème en soi, ça dépend qui fait quoi, effectivement, et les interlocuteurs précédents l'ont clairement dit. L'autonomie interne, il en faut, bien entendu, mais André Kemadi l'a dit tout à l'heure, nous sortions d'une situation dans laquelle il y avait une balkanisation des structures et des établissements avec des services de spécialité, de surspécialité, et donc un émiettement interne.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec André Grimaldi quand il dit maintenant c'est la finance qui dirige l'hôpital ?
La finance dirige l'hôpital. C'est vrai que les établissements sont sous tension budgétaire forte, que dans les négociations avec les ARS, selon les instructions de l'État, ce qui doit être pris en compte et être en ligne de mire, c'est le taux de marge brute, la capacité d'investissement, etc. Et que ça se traduit par des stabilisations ou des blocages de la masse salariale qui entraînent des réductions de remplacement, la renégociation des accords de temps de travail.
Alors justement,
c'est une crispation parce que les interlocuteurs internes, les partenaires sociaux ont finalement le sentiment que ça finira jamais.
Sur les 35 heures, il faut revenir dessus ou pas ?
La question ne se pose pas du tout comme ça. D'abord, souvent, les gens font plus que 35 heures et accumulent des heures supplémentaires ou des congés non pris. Donc, c'est bien dans une organisation générale et non pas en regardant simplement un des aspects que l'on peut répondre à la question.
Elsa, vous avez
un Je comprends le malaise. Mm. Ce malaise, il est lié à la charge qui augmente, aux suppressions de postes, à la solitude du dimanche après-midi quand on est seul, aux horaires, à l'éloignement aussi, parce qu'il y a des facteurs de tension qui sont extérieurs à l'hôpital. Les gens habitent de plus en plus loin. Il faut compter un temps de transport important qui s'ajoute à la journée de travail.
Entre autres pour la région parisienne.
Bref, exactement. Donc, un ensemble de facteurs aggravants.
Je voudrais que notre infirmière réagisse, Elsa.
Merci. On parle de développement effectivement de réseaux en ville pour décharger les hôpitaux. Nous, au sein de l'association des puéricultrices, on aimerait que soit reconnue la consultation de puéricultrices qui, pour nous permettrait une installation en libéral et pourrait potentiellement aussi limiter le nombre de réhospitalisations, notamment pour tout ce qui peut être suivi de l'allaitement maternel, accompagnement des jeunes mamans qui sortent maintenant à 2 jours post-accouchement avec des montées de lait qui n'ont pas encore été mises en place, des bébés qui ne têtent pas forcément de manière efficiente. On se rend compte qu'avec les sorties précoces de maternité, il y a un très fort taux de réhospitalisation pour déshydratation, perte de poids, avec des conséquences qui peuvent parfois être tragiques.
Alors que tout ça pourrait être fait
alors
en ville.
En ville. Alors, je dis pas qu'on remplacerait un médecin, bien évidemment que non, mais ça permettrait aussi de désengorger les urgences problèmes n'ont pas lieu forcément.
Et puis, il y a toute une partie des activités médicales qui pourraient tout à fait rediriger vers les infirmières et les puéricultrices, absolument sans problème. Un petit mot sur les 35 heures, il faut revenir là-dessus ou pas ?
Je ne pense pas que ce soit à moi forcément d'y répondre. Après, quand j'entends effectivement Monsieur Fillon qui nous dit que tout le monde doit faire des efforts, je pense que les efforts, on les fait déjà.
Vous voyez mal comment vous allez en faire plus.
Je ne vois pas comment on peut réussir à en faire plus avec encore moins, sans mettre en danger nos patients et nos conditions de travail. Et je pense que notre métier, on le fait par passion et pas du tout vis-à-vis de la reconnaissance financière qui est moindre par rapport à notre niveau d'études et nos responsabilités.
Professeur Perremort, je crois que vous voulez revenir sur ces 35 heures.
Moi, à titre personnel, n'en déplaise à certains, je pense effectivement que la mise en place des 35 heures a été terrible pour notre institution. Non seulement elle ne s'est pas accompagnée d'embauche, mais elle s'est accompagnée de réduction du personnel. Et je serais, à titre personnel, tout à fait favorable à ce que les agents hospitaliers travaillent à nouveau 39 heures, à la condition d'être mieux payé, car on s'aperçoit que le personnel soignant à l'hôpital est relativement mal payé par rapport aux autres pays de l'OCDE.
Donc les 4 heures supplémentaires payées plus. André Grimaldi, puis après je voudrais qu'on en vienne au programme.
Les 35 ans ont été appliqués dans des conditions pour dire des choses catastrophiques à l'hôpital. Là, il faut d'abord garder les critères de métier. Vous voulez des équipes. Si un malade est hospitalisé pendant 5 jours, il ne faut pas qu'il voit 3 infirmières pendant les 5 jours. Donc, vous pouvez pas être un jour je travaille, le lendemain je travaille plus. Enfin, c'est une désorganisation. Donc, la seule façon d'appliquer les 35 heures, c'est dans la durée, avec le fait que on peut travailler à 38 ou 39 heures par semaine pendant un mois, puis ensuite avoir des jours de congé suffisantes. Bon. Donc, ça, on organise, la vie familiale s'organise, mais d'abord, il y a une cohérence d'équipe. On n'a pas fait ça, donc c'est invraisemblable. C'est comme ça que on va mutualiser, vous passez ici ou là pour les surveillantes.
Pour combler les trous.
Le planning. Parce qu'il y a les 35 heures, mais il y a comment les prendre. Donc, vous pensez les heures passées à discuter de comment les prendre. Alors.
Court, parce qu'après, je réponds à Fillon.
Il faut permettre aux gens qui veulent travailler 39 heures de le faire à condition d'être payés 39 heures, car donc, les inégalités de salaire dans le pays ont cru, et c'est quasiment une insulte quand même. Tous les jours, vous entendez ce que gagne un tel, ce que gagne un tel. Bon, sans parler de dépassement d'honoraires de certains des collègues qui sont abusifs. Bon, qu'est-ce qu'on envoie comme message aux infirmières? Alors après, les gens, ils disent, j'en fais assez pour ce que je gagne. Il y a une réponse, ça, monsieur Fillon, à cette question-là? Donc il y a un problème, tout simplement, de respect. On ne peut pas dire aux gens, vous travaillez 39 heures pour être payé 37.
Docteur Olivier Véran, juste un mot sur les 35 heures.
Oui, c'est un vieux sujet. C'est vrai que dans la mise en application des 35 heures, ça a posé un certain nombre de sujets et de soucis dans des équipes. La proposition de Fillon de bosser 39 heures, c'est-à-dire 4 heures de plus, payer seulement 2 heures de plus, non seulement n'est pas respectueuse du travail, de la qualité du travail qui est fournie par les soignants à l'hôpital, mais serait extrêmement déstructurante et créerait des fatigues là où il y a déjà de la fatigue. Moi, je fais un chiffrage grosso modo. Si j'estime qu'il devra supprimer, s'il applique son programme, entre 250 et 300 000 postes hospitaliers en 5 ans, alors qu'il y a 1 100 000 salariés. Ça veut dire qu'il y aurait quasiment un quart de l'effectif qui serait réduit. Enfin, quiconque a déjà mis les pieds dans un hôpital public, mais quiconque a déjà mis
alors
les pieds dans un
service
d'urgence, sait que c'est absolument impossible, c'est même insultant.
Je voudrais qu'on en revienne au programme des différents partis politiques. Professeur André Grimaldi, vous les avez étudiés, vous avez entre autres étudié celui de la droite, puisqu'il y a eu les primaires. Vous en pensez quoi? Fillon, justement, propose un changement du statut de l'hôpital, c'est ça?
Sur ce point, il y avait une différence radicale entre Alain Juppé et François Fillon.
Maintenant, on a Fillon, donc en partant sur Fillon.
D'accord, sur Fillon. Alors, il y a deux points majeurs. Il y a cette histoire que la Sécu ne rembourserait plus que les soins graves et de longue durée, c'est-à-dire les affections de longue durée, diabète, cancer.
Et le reste serait pris en charge par les assurances complémentaires.
Voilà. Et l'hôpital. Ça a une conséquence terrible. Terrible. Non seulement parce que les complémentaires sont moins justes, vous payez plus quand vous êtes vieux, vous ne payez pas en fonction de vos revenus. C'est plus inégalitaire, tout dépend de votre gamme, il y a au moins 10 gammes, alors vous prenez le bas de gamme, vous n'êtes pas remboursé pour le dentaire, vous n'êtes pas remboursé pour l'optique, bon, le haut de gamme, vous êtes remboursé pour les dépassements, enfin, etc. C'est beaucoup plus cher. Les frais de gestion des mutuelles, c'est 20% du chiffre d'affaires. Quand vous donnez 100 euros à une mutuelle, il y a 20 euros pour la gestion.
Et qu'en est-il pour la sécurité?
La sécurité sociale, 100 euros, 6, c'est 6%. Donc c'est une histoire. Alors le
et
drame,
est-ce que
c'est quoi
sur les dépenses de santé globales, quel est le système qui coûte le plus cher? Le système américain.
Le plus cher, c'est les systèmes privés concurrentiels. Parce qu'en santé, quand vous mettez la concurrence, ça fait augmenter les prix. Tout simplement pour une raison simple, c'est que vous êtes angoissé, comme il a une cystite, mais il dit est-ce que j'ai pas un cancer de la prostate? Oh, il faut que j'aille voir le grand professeur. Bon, donc vous avez une logique qui est que c'est pour ça que nous prêtons serment. D'ailleurs, nous prêtons serment de pas abuser des malades, parce que c'est très facile d'abuser d'un malade. Si vous dites votre fils est malade, là vous avez le haut de gamme. Rappelez-vous, Gilles Joannet avait mis aux AGF, quand il était aux AGF, l'assurance santé complémentaire d'excellence pour les chefs d'entreprise, à l'époque 10 000 euros par an. Vous aurez les meilleurs professeurs pour vous, même pour votre cystite ou votre prostatite. Bon, cette logique-là est complètement inflationniste, coûte beaucoup plus au pays, mais moins à la dépense
publique.
Donc
dans le programme
en gros,
de Fillon,
ce
que dit, il y a cette question.
Il y a 16 milliards de soins courants. On les passe aux complémentaires. Qu'est-ce qui va se passer? Les primes pour les complémentaires vont doubler ou tripler.
Ça, c'est pour la Sécu. Pour la question de l'hôpital,
Il est logique avec la T2A. Il dit, effectivement, il y a un carcan. Ben, allons-y, changeons le statut de l'hôpital. L'hôpital devrait pouvoir venir du privé non lucratif. Comme ça, il choisira son business. Saint-Joseph a dit, moi, les SIDA, j'en veux pas. Tel autre institut dit, moi, je m'occupe, mais que des petits cancers débutants. Le reste, cancer de prostate, machin, etc., c'est pas pour moi. Allez voir ailleurs. Bon, donc, si vous faites ça, et puis on va payer très cher le chirurgien vasculaire, parce qu'il rapporte, mais on va lui dire, attention, il faut que tu fasses des varices, hein, au moins 500 varices par an. Parce que ça soit rentable.
Donc ça, ça vous inquiète.
Critère de rentabilité jusqu'au bout.
D'accord. Alors, réaction de professeur Perromore et puis après Olivier Véran.
Sur quel sujet ?
Ah bah, sur cette question de ce que proposent les différents partis politiques. Alors, à la fois, on est obligé de parler un peu sécu. La proposition de Fillon sur la sécu, est-ce qu'elle vous inquiète ? Et puis, est-ce que la question de la privatisation des hôpitaux, ça vous paraît une bonne piste ou pas ?
Non, la privatisation des hôpitaux, effectivement, me semble dangereuse. Sur la question de la sécurité sociale... là aussi, je risque d'en surprendre quelques-uns. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que les soins les plus courants ne soient pas remboursés par la sécurité sociale, à la condition de mettre des garde-fous, par exemple pour les personnes les plus démunies ou encore pour les enfants. Mais sur le principe même, après, tout est question de la méthode d'application, hein, de l'aspect technique. J'ai pas bien réfléchi à la question, mais sur le principe, ça ne me dérange pas parce que on voit quand même que les traitements complexes des maladies lourdes chez les patients polypathologiques sont de plus en plus nombreuses et coûteuses. Ça, on le voit au quotidien. Et je ne serais pas choqué sur le principe que les soins les plus quotidiens
malgré
et les plus légers,
d'André Guimaldi, que c'est
malgré
c'est...
cet argument-là, sur le principe, hein, après tout dépend des mesures d'application.
Mais on garde l'hôpital public. Olivier Véran, une réaction. Donc mais à la fois sur cette question de la sécu et puis de l'hôpital public.
Quand on est un sachant, et notamment quand on est un médecin, au moins on a la chance de savoir ce que c'est qu'une maladie grave et une maladie qui n'est pas grave. Mm-hmm. Ce que c'est qui relèverait de la bobologie, ce qui pourrait potentiellement être très, très gênant. Et moi, je me mets à la place du patient qui n'est pas forcément médecin et à qui on va dire, attention, maintenant, si c'est pas grave ou si c'est pas urgent, ce sera pas remboursé ou en tout cas, il y aura des grosses franchises. Moi, je crois que c'est une hérésie. C'est une proposition qui va à l'encontre très clairement de ce qu'a bâti le Conseil national de la résistance dans notre pays, construit quand même sur les ruines de la France après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un système solidaire dans lequel nous cotisons en fonction de nos moyens et nous recevons en fonction de nos besoins. Et je crois qu'en plus, ce n'est pas une proposition qui sera applicable, car les Français seraient extrêmement opposés à cette proposition si elle était appliquée. Et je vais faire un petit parallèle, pardonnez-moi, entre François Fillon à peine désigné et Donald Trump à peine élu. C'est que dans les deux cas, les deux se rendent compte sitôt après avoir été désigné que finalement cette proposition ne tient pas la route. J'entends depuis hier les trois lieutenants santé de François Fillon qui disent « Non mais attendez, il a dit ça, mais bon, il faut qu'on retravaille. »
Donc vous êtes rassuré du coup.
C'est pas... moi, ce qui m'embête, c'est qu'on, si vous voulez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer un système solidaire, on dit qu'il n'est pas efficient, qu'il n'est pas efficace, qu'il coûterait trop cher. Moi, je crois que nous avons
mais il faut l'améliorer, vous êtes quand même d'accord.
Nous avons au moins un motif de réjouissance collective, c'est que nous avons un excellent système de santé. Nous y mettons les moyens, mais il est absolument excellent.
Oui, c'est
excellent.
Peut-être pas mal. Donc, de le rappeler quand même.
Commençons par rappeler que nous y sommes attachés et qu'il faut arrêter de vouloir faire un bouc émissaire de tout ce qui fonctionne dans
alors,
notre
pays. Alors, professeur Perromore, j'aimerais bien que Michel Rosenblatt réagisse
moi,
aussi.
Moi, je voudrais quand même nuancer
quelques
un petit peu ça.
À la fin de cette émission. Hein, il reste 3
parce
minutes.
Qu'on voit quand même au quotidien aussi beaucoup de gens qui utilisent très largement le système pour des dépenses de santé qui sont directement responsables aussi de l'inflation. On incrimine beaucoup les hôpitaux, les médecins, le système en général, mais les patients aussi doivent être responsabilisés. Et on voit, mais tous les jours, à chaque consultation, des patients qui ont consulté 4 personnes la même semaine, qui ont eu 4 ordonnances différentes, qui se sont fait rembourser pour les 4 ordonnances. Donc, je crois quand même qu'il faut pas caricaturer, et il y a certainement un travail aussi de responsabilisation des patients pour les prescriptions de soins légers.
Michel Rosenblatt, et puis après André Grimaldi.
Oui, sur les deux aspects, sur la sécurité sociale, je pense que les projets sont encore trop flous de la part des candidats et des candidats potentiels pour qu'on aille vraiment dans le détail, même si certains principes sont clairement posés, ils peuvent inquiéter. En réalité, il y a déjà des grandes disparités, il y a déjà des secteurs mal pris en charge, il suffit de penser à l'optique ou au dentaire pour savoir qu'aujourd'hui tout n'est pas idéal dans le système. Je voudrais insister aussi sur le coût de la complexité. On a monté des systèmes de très grande complexité qui ont un très grand coût. Et c'est vrai qu'une remise en ordre sur des principes qui fassent si possible consensus serait probablement une source d'économie assez substantielle. Sur le service public, je voudrais simplement dire que le service public a un coût. Le coût de l'accès aux aux tarifs opposables, le coût de la répartition territoriale qui permet d'être soigné à une proximité suffisante, le coût du recours qui n'est pas le même que le coût d'un acte plus simple fait à la clinique, le coût de l'absence de sélection des patients.
Donc il faut tenir compte de tout ça dans le budget de l'hôpital public.
Il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il faut le financer. On peut être tout à fait dans une logique de tarification à l'acte et à l'activité sur ce qui est banalisable, ce qui est normal, mais dans ce cas-là, il faut payer, et sans doute sensiblement cher, ces aspects-là, sans lesquels le service public et la prise en charge ne sont tout simplement
merci
pas...
Merci Michel Rosenblatt.
Et André... un tout dernier mot, oui, il n'y a pas un hôpital, il y a une grande diversité entre l'hôpital local et le CHU, tout et ça mériterait une émission en tant que telle.
D'accord. André Grimaldi.
Juste un point, c'est que si François Fillon applique ce qu'il a mis dans son programme, pour les classes moyennes, ça veut dire qu'elles paieront deux fois leur santé. Une fois, la Sécu pour la solidarité avec les malades graves, les affections de longue durée. Et une fois leur mutuelle, de plus en plus chère, pour eux et leurs familles, les gens, ces classes moyennes, diront j'en ai marre de payer deux fois. C'est ce qui se passe aux USA. Aux USA, vous payez 4 000 $ pour la solidarité, Medicaid, Medicaire, et 4 500 $ votre assurance privée. Et quand Obama arrive avec l'Obamacare, tout le monde refuse. Ça fait une bagarre. Donc, en France, si on casse le système de la sécurité sociale, si on applique le programme Fillon, à terme, ce seront une partie de la population qui refusera de continuer à cotiser à la sécurité sociale.
Mais il est en train, a priori, de revenir là-dessus. C'est pas encore effectivement définitif.
Il va revenir, il était droit dans ses bottes, mais il va prendre des baskets.
Merci beaucoup à tous d'être intervenus. Désolé, parce qu'on aurait pu continuer très longtemps sur cet hôpital public. Demain, on parlera d'un tout autre sujet, puisque nous parlerons des maux de ventre.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance, l'assurance d'être en de bonnes mains. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.